pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
I'm so tired of all this noise. It's just a fleeting sound to drown out your voice. I'm trying hard to find some peace of mind in this crazy little town, but it keeps wearing me down. It keeps wearing me down. It keeps wearing me down. Cars are passing on the street, and everybody's got their plans for where they need to be. All the night lights shine to burn my eyes, and I'm afraid that this time is getting the best of me. So and all these shopping malls, red light traffic on I-45, but I'm just trying to get back home. So I drive till this road is gone, just that maybe I don't want to sound negative. It's nothing personal. I just think that everybody gets a little stir crazy when they're living in a suffocating city, and there's just no love. There's just no love. Yeah, can you show me your love?
Baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune, and know my heart's a stereo. Yo, the only place for you.
My heart's a stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh,
yeah, yeah, come on.
Make me your radio. And turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So sing along to my stereo. Oh, 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 oh.
If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you.
So listen close, hear my thoughts in every note. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Because good music can be so hard to find.
So hard to find.
I'll take your hand and hold it closer to mine.
Yeah.
Stereo Heart, c'était Jim Glass Heroes sur Phare FM et c'est la nuit autrement qui est encore avec vous jusqu'à 5h. Et si vous venez de vous réveiller, eh bien, bon réveil et aussi bon courage pour la journée. Tout doucement, on approche de la fin de la semaine. J'espère que vous allez bien. Merci de vous réveiller avec Phare FM. Je vous propose un beau programme. Pain de vie tout à l'heure avec Claude Gréder et puis les langages de l'amour. Et puis de la musique, de la belle musique. Henry, maintenant Joy Unspeakable. Et puis, ne manquez pas Pain de vie. Ce sera dans quelques 7 minutes. Claude Gréder nous parle de l'église persécutée. Bonne journée, bon réveil. Merci de rester avec la radio autrement.
Minuit 5h, la nuit autrement
avec Mireille.
There's a fire in my bones, stirring up my soul. I feel invincible. There's a truth inside my heart, burning like the stars. I feel unstoppable. Before I knew his love, I was all messed up till he put me back together. I went from dead to life, went from blind to sight, went from black and white to color. Shake the dust beneath. Don't you know? Fear cannot compete against the sound of victory. It makes me wanna sing. Yeah, I got that. Stand. I'm not isolated, I'm held in his hands. No, it's not a secret, he wins in the end. So fear can't contain all the joy that's within.
place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Claude Gréder.
Aujourd'hui, dans toute la France et depuis une semaine déjà dans le monde entier, eh bien, toute l'Église du monde libre se souvient qu'il y a dans le monde des hommes et des femmes comme vous et moi, faits de chair et de sang, qui pour le nom de Christ souffrent. C'est le dimanche de l'Église persécutée. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous prêcher un machin déprimant, mais nous allons quand même parler un peu de choses qui sont un petit peu, je dirais, délicates. Et je voudrais nous inviter à ce matin à nous ouvrir notre cœur à celles et ceux qui, de près ou de loin, parfois de très près aussi, je ne sais pas si sur Internet, mais de certaines personnes qui nous suivent, et qui nous suivent en secret, parce qu'ils ne pourraient pas venir dans une église. Je voudrais qu'on puisse penser ce matin à eux, et en pensant à eux, vous allez voir, on va retourner chez nous. Voilà, on pourrait lire ensemble un texte tiré de l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 10. Au chapitre 10, c'est les versets 32 à 34 inclus. Ces deux versets sont, trois versets sont dans un passage où l'apôtre, le rédacteur, l'auteur de la lettre aux Hébreux, disait, hé les gars, arrêtez de jouer avec votre salut. Arrêtez de jouer avec le péché. Arrêtez parce que c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Verset 32, il dit, mais rappelez-vous donc, souvenez-vous, dans les premiers temps, après votre conversion, à peine aviez-vous été éclairé de la lumière de Dieu, que vous avez eu à beaucoup souffrir, mais vous avez tenu bon. Tantôt on vous a publiquement injurié et tourné en dérision, vous avez eu à subir des persécutions et de mauvais traitements. Tantôt vous étiez prêt à soutenir ceux qui étaient traités ainsi, et vous avez pris moralement part à leur souffrance. Oui, vous avez témoigné votre sympathie, verset 34, aux prisonniers, et vous avez accepté dans la joie d'être dépouillés de vos biens, car vous saviez que vous possédez ailleurs des richesses plus précieuses que nul ne pourra vous ravir. N'abandonnez donc pas cette ferme assurance à laquelle est promise une si grande récompense. Souvenez-vous, rappelez-vous les temps difficiles du départ. Parmi nous, certains ont aussi connu des temps difficiles dans le démarrage de la foi chrétienne. Ma famille, moi-même, quand on s'est converti dans le village, plus personne ne nous parlait. On changeait de trottoir. Quand on arrivait aux fêtes communales, on nous ignorait, on tournait le dos gentiment. Peut-être ça vous est arrivé aussi. D'autres ont subi des coups et blessures, y compris ici, dans l'église, en France. Ça n'a pas toujours été aussi sympathique ici. Et on se souvient qu'il y a eu des familles qui ont vraiment souffert, y compris dans l'église d'ici. Le fait de prendre la direction du chemin avec Jésus leur a provoqué dans leur famille des retours de bâton incroyables. Mais ce matin, je voudrais nous rappeler que ça a toujours existé. Dans le cadre, au temps de la réforme au XVIe siècle en France, eh bien, il y avait une belle progression de l'évangile. Mais très vite, l'autorité publique s'est opposée. On se rappelle du bon roi Louis XIV, qui n'était pas si bon que ça et pas si gentil que ça. Le roi soleil, qu'on admire de partout, allait convertir de force de nouveau les protestants au catholicisme. Et ils ont eu tous les droits. Ils s'installaient dans les maisons et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils mangeaient l'argent, ils mangeaient le pain des gens, etc. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient liberté absolue, d'une cruauté absolue aussi. C'est arrivé en France et des centaines et des milliers de gens ont souffert de cela. Et ça a provoqué aussi un exil et un exode de la force vive du pays. Parce que les protestants, au moment où nous sommes aujourd'hui, nous avons une éthique du travail, n'est-ce pas ? Nous travaillons. Et ces gens-là sont partis, avec le départ, dans des pays refuges comme l'Allemagne, le pays des Pays-Bas, l'Angleterre, voire l'Afrique du Sud. Eh bien, ils ont emmené avec eux toute la richesse et tout le savoir-faire, et ça a appauvri le pays. Et là, le rédacteur de l'Épître aux Hébreux, eh bien, parle à une église, à une communauté d'origine juive. On pense que c'était celle de Rome, et si c'était celle de Rome, elle a dû subir la persécution de l'an 49, où ils ont, son empereur Claudius, dû sortir de la ville illico presto. Tous les chrétiens et tous les juifs ont dû sortir en laissant tous leurs biens, d'un instant à l'autre. Souvenez-vous de ces premiers jours, dira la version Louis II, J'ai pris une autre avant. Souvenez-vous de ces premiers jours. Te souviens-tu peut-être de ce que tu as souffert lorsque tu t'es donné à Jésus? Te souviens-tu un instant? Ça devrait nous faire réfléchir et nous rappeler et nous faire tenir bon aujourd'hui quand tout va bien. Je me souviens de ce jour-là. Je me souviens des jours suivants lorsque les parents revenaient nous voir le dimanche suivant et qu'ils nous disaient les enfants à l'école étaient pointés du doigt. Tes parents font partie de la secte. On se souvient de ça encore? La persécution se souvient toujours au premier jour de la conversion, au premier jour d'une église. Voyez-vous, lorsque l'esprit de Jésus arrive, il y a l'esprit de Satan qui s'oppose. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit de Satan s'est manifesté au travers de Hérode, qui va déployer une armée pour essayer de tuer un petit bébé. Pourquoi une telle opposition? Pour la bonne et simple raison que le nouveau converti quitte la croyance de la majorité. Et l'opposition est particulièrement féroce lorsque nous faisons le choix de suivre Christ. Ce n'est pas incompatible. Oui, je crois à ce Dieu qui bénit chacun et chacune. Mais je crois aussi, et la parole de Dieu nous en parle, et l'histoire nous apprend que là où l'Église progresse, il y a aussi des oppositions, voire des persécutions. Aujourd'hui encore, ça se passe. En Inde, les chrétiens subissent la persécution en partie parce qu'ils sont nombreux à quitter l'hindouisme pour venir à Christ. Souvent, ces nouveaux chrétiens viennent des mondes, des minorités tribales, des castes dites, c'est les intouchables. Et pour les obliger à se reconvertir à l'hindouisme, on organise ce qu'on appelle des campagnes retour à la maison. Les hindous entrent en force dans les villages et usent de violence et de menaces, obligeant le nouveau converti à revenir à l'hindouisme. Dans le monde musulman, ceux qui sont le plus persécutés ne sont pas les membres des églises traditionnelles, mais les convertis. On dit de l'Iran actuellement que c'est l'église là-bas qui grandit le plus vite au monde. Vous voyez ce que je veux dire? D'un côté, on n'avait que la photographie de l'islam qui progresse, mais en fait, c'est l'islam qui se sent agressé. Parce que dans son sein, il y a des églises chrétiennes qui progressent. Nicolas Ballon a fait plusieurs voyages de contrebande entre la Suisse et la France à l'époque pour passer des Bibles. Il a été arrêté et tué à Poitiers en 1556. Alors pourquoi est-il important de se souvenir de cette persécution-là? Parce que voyez-vous, la Bible dit, et l'apôtre Paul le dit en toute simplicité, il dit à Timothée de souffrir avec lui. Et il lui dit, en règle générale, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. N'imaginons pas que nous allons toujours passer au travers des mailles du filet. Il y a des jours où ça va nous concerner. Il y a des jours où j'ai vu des gens que j'aimais profondément se dresser contre moi. Notamment une personne qui m'a accablé à cause de ma foi. Il a fallu tenir bon. Il fallait tenir bon. Tenir bon. Tenir bon, et je vous encourage à tenir bon. Et si aujourd'hui votre famille est contre vous, si aujourd'hui vos proches sont contre vous, si aujourd'hui ils sont contre vous, continuez à les aimer. Continuez à les prier pour eux. Continuez à les élever devant le trône de Dieu. Continuez à leur faire du bien. Ne les maudissez pas. Soyez bons à leur égard. Continuez à les visiter. Priez pour eux. Qui sait, peut-être demain est le jour où Jésus les visitera dans sa grâce et où il les sauvera à leur tour. Deuxième grand point, vous avez soutenu un grand combat. Hébreux 10, verset 32. Hébreux 10, 32. Vous avez soutenu un grand combat. Évidemment, ce n'était pas un combat de gladiateur, hein, mais c'était un combat dans la foi, de savoir résister, de surmonter les obstacles et de surmonter la persécution qui peut avoir plusieurs formes. Je vois au moins quatre. La première des formes, c'est l'attaque publique, l'accusation mensongère et les diffamations. Persécutés, ils étaient pointés du doigt par le voisinage. C'est la première des formes de persécution. Un rejet social majeur. Tout à coup, vous devenez un paria. On ne vous connaît plus. Vous vous sentez mauvais. On vous croise avec d'autres que vous croisiez avant tous les jours, qui vous aviez une relation sympathique. Tout à coup, c'est comme un mur de verre. On vous voit, mais de loin. Une jeune femme en Indonésie, récemment, a choisi de suivre Jésus. Lorsqu'on en a parlé à ses parents, ils l'ont chassée de la maison. Ils l'ont chassé de la maison et c'est les parents qui ont fait courir le bruit qu'ils l'ont chassé parce qu'elle se serait prostituée. On a vécu des choses similaires ici. Hein. C'est la diffamation, c'est l'attaque mensongère publique, c'est l'accusation mensongère. Une deuxième forme de persécution, c'est l'enlèvement de nos biens. L'enlèvement de nos biens, c'est marqué ici. Et vous avez en effet eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté, remarquez ce qui est marqué là, avec joie, l'enlèvement de vos biens. Sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent toujours. Récemment, en Iran, le gouvernement pratique une politique d'appauvrissement des chrétiens. Ils sont emprisonnés. Et pour les relâcher, il faut payer une caution, c'est-à-dire une somme d'argent qui est posée en dépôt. Mais cette somme d'argent, généralement, elle est exorbitante. On ruine les gens. Les familles se ruinent pour des dizaines de milliers d'euros et l'État s'enrichit avec cet argent-là, avec l'argent des chrétiens. En Irak, les chrétiens ont été chassés de leur village en 2014. En quelques heures, ils ont dû fuir devant l'État islamique. Ils ont perdu toutes leurs possessions, leur maison, leur bien personnel, ferme, atelier, outils de travail, etc. Un chrétien d'Irak raconte ceci, je vous le lis. Un combattant de l'État islamique m'a dit qu'il n'y avait pas de place dans la vallée de Ninive pour les infidèles et que nous devions déguerpir immédiatement. Avant de nous faire monter en direct dans le bus en direction du Kurdistan, les djihadistes nous ont pris notre argent, nos bijoux et tous nos objets de valeur. Je n'avais plus que les vêtements que je portais et des sandales aux pieds. Une troisième façon de persécuter les gens, la discrimination économique. Ça commence à l'école, chez les enfants. On refuse de donner des bonnes notes aux enfants de chrétiens. On place les enfants et les familles chrétiennes au fond de la salle de classe. Et au village, les commerçants pratiquent des prix plus élevés pour les chrétiens que pour les autres. Et enfin, une dernière façon de pratiquer la persécution, c'est le sacrifice de la vie. Alors on pense à ces grandes figures, n'est-ce pas ? Ces hommes et ces femmes qui ont laissé leur vie autrefois au XVIe siècle, XVIIe siècle, etc. C'était loin, c'est loin de chez nous, loin de notre espace, notre temps à nous. On se dit, ouais, c'était une période sombre. Et à l'époque, on faisait des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ça a changé. Le cœur de l'humain n'a pas changé. En mai 2017, en Égypte, un groupe de chrétiens égyptiens, des Coptes, ont voulu aller à un monastère. Les djihadistes les ont arrêtés, ils ont fait descendre et leur ont demandé d'abjurer la foi chrétienne. 29 hommes, femmes et enfants. Aucun n'a abjuré, aucun homme, aucune femme, aucun enfant. Ils les ont abattus l'un après l'autre. En mai 2017. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous savez, lorsque Calvin a dû fuir, il s'est établi à Bâle, puis à Genève, en passant d'abord par Strasbourg. Et à Genève, il a vraiment fait un boulot de fond. Il a aussi créé une école biblique pour pasteurs. Et les communautés huguenotes envoyaient des jeunes hommes. Devinez combien, quelle était la durée de vie moyenne d'un jeune pasteur qui rentrait en France pour annoncer l'évangile et prendre soin des communautés huguenotes. 3 semaines. Nous avons aujourd'hui le privilège de lire la Bible. Nous y avons accès de partout. Nous l'avons sous toutes ses formes, en version papier, version électronique, en grosse version, version commentée, tout ce que vous voulez. Mais derrière cette liberté que nous avons aujourd'hui, il y a des dizaines et des centaines d'hommes et de femmes qui ont laissé leur peau, y compris en France. C'est pourquoi nous ne pouvons pas ne pas ouvrir avec respect ce précieux trésor et l'ouvrir aussi souvent que possible, si possible tous les jours. J'aimerais lire avec vous les versets que j'ai lus au début. Souvenez-vous de ces premiers jours, verset 32, où après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances d'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations de l'autre. Voyez-vous, je pense que l'Église, dans ce verset-là, il y a deux éléments. Il y a l'élément tribulation, souffrance, persécution, et l'élément vous associant à ceux dont la position était la même, l'élément solidarité. Je pense que l'Église de tout temps était tantôt persécutée et était dans la souffrance, dans la difficulté, mais était aussi dans un autre coin du même pays, voire de la frontière, il y avait une autre église, la même église en Jésus-Christ, mais qui se sentait solidaire, solidaire pour aider l'Église souffrante, pardon. Et je pense que de tout temps, soit on est dans la persécution, on vit de l'opposition, soit on est appelé à être solidaire de celles et ceux qui traversent cette opposition ou cette souffrance. L'Église est à la fois souffrante et solidaire avec les chrétiens persécutés dans le monde antique. Dans Hébreux 13, verset 3, il est dit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous aussi étiez prisonniers. » Je ne sais pas si vous savez, mais dans ce petit pays qui est coincé entre l'Éthiopie et Djibouti, un pays appelé Érythrée, on a enfermé des chrétiens. Ils sont encore enfermés par centaines dans des conteneurs de camions. Vous savez les conteneurs qu'on voit sur l'autoroute, sur les 38 tonnes, on les enferme là-dedans. Imaginez la vie là-dedans, sous le soleil. Ils y étouffent, ils y meurent de soif, de faim, aujourd'hui, pendant que je cause. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps physique. À l'époque, les prisonniers pouvaient mourir de faim, à moins que leurs amis ne leur apportent de la nourriture. Mais s'identifier à eux, leur apporter à manger, mettait en péril ceux qui faisaient ce geste de solidarité. L'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 2, verset 25, nous cite un chrétien, nom de Épaphrodite. Paul était à l'époque de la rédaction de l'épître aux Philippiens, était à Rome en prison. Et l'église de Philippe, qui est dans l'actuelle Macédoine, au-dessus de la Grèce, une des premières églises européennes, a eu entendu dire que Paul était en prison. Et du coup, ils ont rassemblé des dons et ils ont chargé Épaphrodite pour apporter ces dons à Rome dans la prison de Paul, pour que Paul ait de quoi manger, puisse s'acheter à manger, puisse s'acheter des vêtements. Et Paul l'écrit aux Philippiens, vous avez bien fait de le faire. Votre don est comme un parfum de bonne odeur qui m'arrive. D'ailleurs, Épaphrodite a pris beaucoup de risques. Et maintenant, il est malade, il a failli mourir. Il y avait l'église d'un côté souffrante, à Rome, et puis l'église qui allait bien à ce moment-là, à Philippe, qui se sentait solidaire de l'église souffrante. Je ne sais pas si vous savez, mais on parle de Marie Durand, cette dame qui a passé 38 ans en prison. Elle est sortie, je crois, à 57 ans. Elle a encore vécu 8 ans. Mais elle et toutes les copines huguenotes qui avaient été enfermées avec elle dépendaient de ceci, dépendaient des dons qu'on collectait à l'étranger pour qu'elles puissent s'acheter à manger et de quoi se vêtir. À l'époque, on pouvait mourir de faim en prison, en France. On a quand même eu affaire à une forte opposition des religions traditionnelles, chrétiennes. Franchement, c'était pas toujours sympa. Et si aujourd'hui, des fois, on nous laisse faire un culte d'enterrement dans une église traditionnelle, mais c'est incroyable, les évolutions en 15-16 ans. Mais je me rappelle des périodes difficiles. Je ne voudrais pas oublier celles et ceux qui, de l'âge de Papa Jean, certains sont déjà partis dans le ciel, ils ont payé un prix élevé, en termes de rejet, en termes de regard négatif, en termes de développement de préjugés à l'égard de la communauté évangélique. Des communautés évangéliques. On n'est pas la seule communauté qui a souffert de cela. Mais ça valait le coup. Regardez voir ce qui s'est passé. ça valait le coup. Papa Jean, ça valait le coup. Toute ta génération de frères qui sont dans l'église, ça valait le coup, les Hutards et Papa Maman et d'autres et qui étaient là. Alors comment pouvons-nous nous identifier aux chrétiens persécutés? Différents moyens d'agir. Pour se souvenir, il faut tout d'abord savoir. J'aimerais qu'on projette cette carte. La carte que vous voyez là, cette carte de la gravité de la persécution dans le monde. C'est établi par Portes Ouvertes. Et voyez le numéro 1, Corée du Nord, qui est l'État au monde qui est le plus opposé aux chrétiens. Là-bas, il n'y a pas d'église. Vous êtes clandestins. Ici, il y a une église, elle est contrôlée. Voilà, c'est tout. Des fois, nous partons en vacances à des lieux idylliques, comme les Maldives. Mais aux Maldives, il est interdit d'avoir une Bible. Alors, quand on va aux Maldives, des fois, je me dis quand même, on amène l'argent à un endroit où on s'oppose aux chrétiens. Regardez voir l'Afrique du Nord, regardez voir le Moyen-Orient. Mais dans ces pays-là, malgré l'opposition, il y a aussi une église grandie et qui avance malgré tout, qui progresse. L'Égypte est un pays où les chrétiens continuent de progresser. Je ne sais plus, Christian, il y avait un culte, il y avait combien de milliers de personnes ensemble? 30 000 personnes? 30 000 chrétiens ensemble qui ont chanté à la gloire de Dieu en Égypte. Waouh! Dans l'Apocalypse, on voit deux êtres symbolique, faire la guerre aux saints, faire la guerre aux chrétiens. D'une part la bête ou le dragon. Et puis il y a dans Apocalypse 17, versets 3 à 6, cette fameuse prostituée, cette femme belle qui attire. Je voudrais terminer là-dessus en disant, l'Église n'a jamais autant grandi qu'actuellement dans le monde entier, même en France. On était 50 000 évangéliques à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est 600 000 aujourd'hui. Mais jamais dans le monde entier, l'Église n'a été aussi en croissance. Même aux États-Unis, figurez-vous. Elle reprend du poil de la bête, elle progresse, elle avance. Et si des fois l'islam se montre féroce comme une bête, c'est parce que généralement dans son sein, il y a des églises qui progressent. Mais ça, on ne le dit nulle part. Tout ça pour dire quoi? Quand l'Évangile progresse, le diable enrage. Mais ne nous laissons pas effrayer, ni par la bête, ni par la prostituée. Parce que si les chrétiens de l'Est ou du Sud ou dans des pays comme la Corée du Nord subissent les foudres de la bête, les chrétiens de l'Ouest subissent la séduction de la prostituée. Et ses griffes ne sont pas moins acérées que celles de la bête. J'ai écouté un pasteur de l'Allemagne de l'Est prêcher il y a une vingtaine d'années de cela, après la chute du mur de Berlin. Et il disait, quand on était en Allemagne de l'Est, on était tellement surveillé par les Stasi et on était persécuté. Et des fois j'ai pris des coups. Mais toute ma famille était bouillante pour Jésus. Cette opposition a travaillé en nous le côté bouillant pour le Seigneur. Et quand le mur est tombé et qu'on a émigré à l'Ouest, il a dit, j'ai failli perdre mes fils dans le monde parce que leur foi a été attaquée par la belle prostituée, par le monde qui nous fait passer notre temps devant d'autres choses, la télévision, l'internet et tout ce que vous voulez. On n'est pas moins en danger à l'Ouest qu'à l'Est. Le danger change de visage. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et dans les mauvais jours, y compris à l'Ouest, parce que le danger qui nous guette, c'est que ça va bien, c'est confortable. Puis je te pose une question, ou il me pose en même temps une question à moi. L'Évangile t'a coûté quoi cette semaine? Qu'est-ce que l'Évangile t'a coûté cette semaine? En temps, en énergie. Frères et sœurs, on peut se souvenir de la férocité des luttes au début de la marche chrétienne, et comme les Hébreux tout à coup s'endormirent et recommençaient à pécher. Et là, il dit, arrêtez, faites gaffe les gars, parce que si maintenant vous recommencez à pécher, il n'y a pour vous plus de sacrifice qui est disponible. Tout ce qui vous attend, c'est le terrible jugement de Dieu. C'est pourquoi souvenez-vous des premiers jours où vous avez lutté pour votre foi. Restez ferme jusqu'au bout, restez ferme jusqu'au bout. Pourquoi une telle férocité du diable? Il y a à peu près 500 ans, il y a un certain monsieur John Wycliffe en Angleterre, avait découvert la Bible. Et il était convaincu de son autorité universelle, il était convaincu aussi de la véracité. Et il a commencé à faire des traités autour de lui. Et puis les gens se sont emballés pour l'évangile et ça fait beaucoup de bruit en Angleterre. Mais au-delà de l'Angleterre, jusqu'en Tchéquie. Et alors, il y a ceux qui étaient pour lui et ceux qui étaient contre lui. Et beaucoup étaient contre lui. Alors il a eu la bonne idée de mourir avant qu'il le mette sur le bûcher. Finalement, il était mort et enterré. Ils l'ont déterré, ils l'ont brûlé, ils l'ont espacé les cendres. Mais avant qu'il ne meure, il y avait des gens de Tchéquie qui étaient venus chez lui, qui ont entendu le message de l'évangile, et ils l'ont ramené en Tchéquie. Et là-bas, un prêtre du nom de Jan Hus, il s'est emballé pour ça, et puis il a commencé à prêcher l'évangile, convaincu que Jésus est le Fils de Dieu, que le salut est gratuit. Et évidemment, tout le monde n'était pas content avec lui, alors ils l'ont emprisonné, ils l'ont torturé, ils l'ont mis au bûcher, ils l'ont allumé. 100 ans plus tard, arrive Martin Luther sur le radar. Un prêtre allemand. Enfin, c'était un Allemand. Et puis, un jeune Allemand qui aussi avait vécu un moment dramatique, pendant un mois de juillet, la foudre était tombée à côté de lui, persuadé que Dieu l'avait préservé de sa vie. Il a voulu devenir moine, il allait au monastère, et là, pour être en paix avec Dieu, il faisait ce qu'il faisait à l'époque. Il faisait des châtiments et des pénitences. Des nuits entières, il se flagellait pour avoir la paix avec Dieu. Et comme il ne l'avait pas, alors il allait se confesser jusqu'à 6 heures par jour d'affilée. Se confesser, quand il avait fini, il retournait se confesser, pensant avoir oublié des péchés. Et il est devenu fou. Mais comme il était sérieux et bon et intellectuellement, un gars intelligent, et comme il voulait devenir prêtre, figurez-vous que les professeurs lui donnaient une Bible entre les mains. Il n'aurait jamais dû faire ça. Il a commencé à lire la Bible avec avidité. Et un soir, une nuit, alors qu'il se lamentait encore devant Dieu, il étudiait l'épître aux Romains. Et il tombe sur Romains, chapitre 3, verset 21, qui dit la chose suivante, verset 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Et le mot « gratuitement », il s'est dit, « Mais si c'est gratuit, c'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est pas payant. Si c'est gratuit, c'est pas la peine de se flageller. Si c'est gratuit, c'est pas la peine de faire pénitence. On confesse ses péchés, on demande pardon, et Dieu donne et fait miséricorde. » Il a compris tout ça. Et tout à coup, il s'est emballé pour le message de l'évangile. Il voulait jamais réformer l'église, mais il voulait juste que ça aille mieux, parce qu'il y avait à l'époque toutes des indulgences, il fallait payer pour aller au ciel, il fallait aller à Rome pour aller au ciel, enfin bref. Il a dit stop. Et le 31 octobre 1517, il a affiché ses 95 thèses sur la porte de la cathédrale de Wittenberg. Et ça a mis le feu aux poudres. Mais il avait trouvé la vérité, la lumière de l'évangile. C'est gratuit d'être sauvé. Alors lui, il a échappé au bûcher, hein, mais pas d'autre. Mais c'est à cause de ce message-là que des hommes et des femmes étaient prêts à donner leur vie. À cause de ce message dans cette Bible-là. Avez-vous déjà lu Romains 3, 21 ? Devriez. C'est intéressant, vous allez voir. En tout cas, tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'aujourd'hui, on bénéficie de ce message et de la liberté et de l'église locale à cause d'hommes et de femmes qui nous ont précédés et qui ont prié un prix incroyablement élevé pour nous amener la lumière de l'évangile. Le message d'un Dieu qui nous aime inconditionnellement. Alléluia ! On est aimé, point barre, t'es aimé, c'est comme ça. Tu peux rien, mais Dieu t'aime quand même. Churchill disait, un ami, c'est quelqu'un qui connaît tout de vous et qui vous aime quand même. C'est comme ça que Dieu t'aime. Il sait tout de toi. Et malgré toi, il t'aime. Hey, quel beau message de l'évangile. Il est impossible d'acheter le salut. Il est impossible de mériter. On ne peut que le recevoir. C'est ça le message de la réforme. On ne peut que le recevoir. Si on n'aurait jamais reçu, aujourd'hui est jour de salut. Aujourd'hui est jour de salut. Aujourd'hui est jour de gloire. Et je voudrais que vous puissiez rentrer à la maison, non pas découragé, mais encouragé. Il dit, hey, je suis porteur du meilleur message au monde. Un message qui libère de la culpabilité, du poids de la peur, de la peur de la mort, de la peur de la vie, du peur de la mort. Parce que Dieu se met tous les jours à notre côté jusqu'à la fin du monde. Amen.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Pain de vie, c'est toutes les nuits du lundi au vendredi dans la nuit autrement sur Phare FM à 1h15 et 4h15. La parole du jour, c'est tout à l'heure et tout de suite on écoute Martin Garrix, We Are The People.
We're a million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith, no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right.
Du jour, chaque jour un mot d'encouragement avec Bob et des Bigasses.
J'avais un pacte avec mes yeux, m'interdisant tout regard de désir. Job 31, 1. Addict à la pornographie? Bonjour à tous. Il y a certaines portes dans la vie qui, une fois ouvertes, sont difficiles à fermer. La pornographie en fait partie. Et comme tout toxicomane, une fois accro, il faut augmenter les doses pour se satisfaire, jusqu'à finir par être choqué et honteux par les profondeurs dans lesquelles on a sombré. Et statistiquement parlant, le problème est exactement le même dans l'Église que dans la société. Jésus nous a appris à prier « Délivre-nous du mal » et une partie de ce mal est désormais entrée dans nos foyers grâce à la télé et Internet. Parents, protégez vos enfants des choses qui peuvent troubler leur esprit et nuire à leur chance de nouer des relations saines. Et si vous-même êtes addict au porno, priez ceci. Seigneur, purifie-moi de mon péché. Psaume 51, 4. Aide-moi à ne plus subir la honte à cause de ce qui m'attire. Romains 13, 14. Je me repens et te demande maintenant ta délivrance. Révèle-moi les besoins que j'essaie de satisfaire et donne-moi le courage, la force et la sagesse de les gérer d'une manière qui t'honore. Je veux suivre l'exemple de Job, qui a fait une alliance avec ses yeux pour éviter de regarder des images qui incitent au péché. Mes propres forces ne suffisent pas pour y arriver. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi quelqu'un en qui je peux avoir confiance, qui partagera sincèrement ce fardeau avec moi dans la prière et qui croira en ma délivrance. Donne-moi un désir de toi qui surpassera et détruira toutes les pensées lubriques. Au nom de Jésus, amen.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour. Phare FM, l'émotion partagée.
Will you stay with me? Will you be my love as the days get longer? Will you follow me? Never let me go. Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world turns round.
When it's said and done, I'll keep holding on, even in silence. If I can hear your voice through all of the noise, yeah. Keep dreaming.
Sur Phare FM, c'est peut-être pas le temps de rêver. Oui, le réveil a sonné, il faut vous lever pour aller travailler. Bon courage. On est encore ensemble jusqu'à 5 heures et je vous accompagne avec de la musique et puis tout à l'heure, les langages de l'amour où il sera question de l'attitude qui change le mariage. Mais avant cela, de la musique, Alan Scott et la chanson New. Bon réveil, excellente journée avec Phare FM.
Looking back, I see a different kind of me. Trying to be free, but hanging by a string. When my world was caving in, your love pulled me from the floor. You were the only cure. I tasted life brand new.
Just what you do. No one. So why don't I keep acting like I'm messing it up? Oh, new is just what you do. You pick me up, bring me through. Make a heart that can only embrace. No more thinking that I gotta grace. Cause new is what you do.
Les langages de l'amour.
En matière de relations, il faut reconnaître une vérité importante. Je suis responsable de ma propre attitude. Celle-ci dépend de la façon dont je vois les choses. Un couple vivait un mariage difficile. Un des conjoints se plaignait, l'autre priait. Le comportement fait toujours la différence. Concentrez-vous sur la gravité de la situation et elle va empirer. Insistez sur un point positif et un autre va apparaître. Même dans l'obscurité d'un mariage qui sombre, il y aura toujours une lueur d'espoir. Il suffit de l'entretenir et elle finira par éclairer la maison. Dieu veut utiliser votre mariage de deux façons. Il veut édifier en vous la personnalité de Christ et vous utiliser pour enrichir la vie de votre conjoint. Dire oui à Dieu est, à n'en pas douter, la meilleure des attitudes.
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Moody de Chicago en partenariat avec Phare FM.
All love will bring you to your knees, to sow the seeds of grace. Your heart of me, of earth and sea, your eyes, time and space. Like a carpenter, I carved your hands from driftwood, from the deep. And I placed my veins inside your dreams to woo you while you sleep.
From Island, John Lucas sur Phare FM. La nuit autrement s'achève. Bonjour chez vous, à vous rejoindre, ainsi que Innocent dans Cocorico à 5h30. En attendant, moi je vous retrouve cette nuit à minuit. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon jeudi. Je vous laisse avec Josh Kamel et la chanson Beau. À très bientôt. Merci de rester avec Phare FM.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembête. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Tu voyais comme c'est beau.